La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Récapitulons. Par ces outils symboliques, quelque chose de l'ordre de la foi, le savant alien exproprie le domaine du politique et transfère de la matière dans le domaine de la nature. Puis, par ses outils technologiques, il se sert de cette matière naturelle pour forger un monde d'objets artificiels. Prenons l'exemple des plantes et de la médecine. Le domaine politique. Avant la colonisation techno-capitaliste, les communautés avaient toutes des médecines à base de plantes, entre autres, dont il reste parfois des traces sous la banquise chrétienne et scientiste. C'était autant le cas des communautés précoloniales lors de l'Europe que des communautés autochtones en Occident. Leur pharmacopée reposait sur un accès aux plantes et des expérimentations directes. Elle reposait aussi sur une transmission des savoirs, bien que la coutume et l'expérience soient deux choses différentes. Chaque praticien-praticienne avait ses endroits, ses moments, ses recettes, ses raisons et ses secrets, exactement comme nous l'avons pour la cuisine. Ces pratiques font partie de la vie politique d'une communauté, pas seulement humaine. On soigne aussi les animaux et les plantes, et ils se soignent. Et elles sont en constante mutation selon les décisions de la communauté et de ses membres. Processus de naturalisation. Lors des phases d'impérialisme, la médecine scientifique se substitue à la médecine politique. Les membres de la communauté perdent alors leurs connaissances et deviennent dépendants de la nouvelle foi. Coupés d'un rapport direct avec les plantes de leur ancienne pharmacopée, ils oublient leur nom et elles s'effacent à leurs yeux. Elles deviennent indistinctes au milieu d'un grand magma de végétation, de fleurs, d'herbes. Objectivées par les sciences naturelles, elles deviennent en quelques générations un élément parmi d'autres dans la catégorie « nature » et réapparaissent avec d'autres noms, selon d'autres classifications. Ils les apprendront peut-être à l'école à travers un schéma biologique ou une formule chimique. On peut les exploiter, on peut les défendre, on peut les admirer ou les oublier. Mais tout rapport sera désormais médiatisé par la logique scientifique. Processus d'artificialisation. Le savant a soumis les nouvelles plantes à une rationalisation. Il les a mesurées et classées selon son ordre et ses outils. Il en découvre alors les principes actifs, les molécules. Il expérimente et note les effets. Il exploite les plantes découvertes. Il en tire des substances qu'il concentre, synthétise ou modifie pour fabriquer un médicament efficace contre une pathologie qu'il connaît, qui lui permet de soigner ses cobayes, ses élites ou sa main-d'œuvre. Il arrive que ce produit, cet artifice, soit peu efficace ou ait finalement des effets secondaires qui peuvent porter à de nouvelles pathologies. C'est la iatrogenèse, la médecine qui rend malade, sans que cela ne remette jamais en question son pouvoir. Processus de renaturalisation. Après une ou deux générations, les individus se soignent avec des gélules à base de plantes qu'ils ne connaissent pas et des essences qu'ils ne savent pas extraire, produits par les mêmes groupes pharmaceutiques que les autres médicaments, et appellent ces médicaments une « médecine naturelle ». Parfois, les plantes vont même servir de métaphore à la renaturalisation d'autres pans de l'artificiel comme le rhizome porte la renaturalisation de la société informatique chez Deleuze et Guattari. La renaturalisation est l'instrument majeur dans l'art de l'acceptabilité. Processus de repolitisation. Pour nourrir le domaine du politique, de l'expérience directe et de la vie subjective face à l'empire naturo-artificiel, nous pouvons adopter une tactique de récupération en cherchant des survivances dans les coutumes et même dans les connaissances scientifiques elles-mêmes. Mais le processus fondamental consiste à reprendre l'expérience directe qui implique d'abord de s'aliéner de l'aliénation, se séparer de ce qui nous sépare. Conscientiser qu'il va falloir petit à petit se passer de tel médicament contre une maladie du quotidien pour essayer autre chose, non par purisme ou poussé par l'urgence, mais pour activer ce processus de repolitisation et cultiver partout où c'est possible une connaissance directe, une expérience empirique, quotidienne et exigeante, pas seulement de la pharmacopée, mais aussi des causes politiques des maladies. C'est alors qu'apparaît comme une nécessité le pendant de la repolitisation, la destruction du monde du savant, de ses laboratoires, de ses outils, de ses symboles. On ne peut pas les réformer, et ceux qui voudraient les exproprier pour les mettre au service d'un meilleur avenir ne feraient que remplacer les savants d'hier par ceux de demain. Ils sont les maîtres en devenir, et nous les combattons. On pourrait prendre d'autres exemples, comme celui de la communication. C'est en se débarrassant de son portable et en attaquant les réseaux que l'on cultive de nouveaux rapports directs, ponctualité, confiance, etc. Il n'y aura pas de 5G autogéré. On pourrait aussi montrer comment le racisme et l'idée de peuple sont des naturalisations des inégalités sociales produites par le technocapitalisme et des conditions indispensables à la guerre qui est à son tour un accélérateur d'artificialisation. Et ainsi de suite pour tous les autres pans de la vie quotidienne. Au final, le processus de repolitisation consiste à abandonner nos religions du salut, tous ces mythes fondés d'un côté sur la menace d'une apocalypse et de l'autre sur la promesse d'un paradis, qu'elles soient dominantes vers un au-delà artificiel, dans la religion du progrès et le transhumanisme, ou minoritaires pour sauver le monde naturel, culte de la nature, y compris anti-civilisationnel. Le sabotage de l'illusion dualiste nous permet d'avoir une vision plus claire et plus critique des principales conceptions de la nature autour de nous. Aujourd'hui, et en Occident, celles qui dominent sont au nombre de trois. Le paradigme moderne diviserait la réalité en deux catégories opposées, nature et culture. Il serait fondé sur ce dualisme décliné selon de multiples variantes, sauvage, civilisé, corps, esprit, etc. L'idéologie transhumaniste, caractérisée par une supériorité de l'esprit et une obsolescence du corps, est une forme contemporaine d'idéologie moderne. Mais en réalité, le savant moderne fabrique lui-même ces deux catégories à partir d'une première qui lui est préexistante et dont il nous aliène, qu'il exploite et dont il nie l'existence. Les zones compensatoires. Il s'agit de zones qu'un aménageur doit créer et protéger pour compenser celles qu'il a détruites. Ces zones sont l'exemple parfait de ce phénomène où le savant produit un espace naturel, niant l'existence de ce qu'il y avait avant. Dans la réalité, le technocapitalisme n'attaque pas la nature, il la produit et la défend. Il la met en boîte, en parc, en réserve, il la conserve. Ce qu'il attaque, c'est quelque chose d'autre. C'est la catégorie de la vie sans médiation, de la communauté politique primitive, selon les mots que l'on préfère. Celle dans laquelle l'agir et le penser ne sont pas encore étanches. C'est ce domaine, et non la nature, qui est constamment attaqué et éradiqué dès qu'il ressurgit par le technocapitalisme, et c'est lui que nous défendons. Ce domaine n'a pas d'essence, et il est en constante mutation, multiplication, diffusion, tant qu'il sait faire avorter en lui et autour de lui la médiation, la spécialisation, l'exploitation dès qu'elle pousse. C'est ce que nous a enseigné l'expérience des ZAD. Occuper un territoire pour le défendre ne suffit pas à se défaire du pouvoir. Le paradigme post-moderne se présente, en théorie, comme un bouleversement du schéma moderne, mais en réalité, il n'en est rien. Dans ce paradigme, la nature est devenue une boîte vide, remplie par la communication, par l'échange de signes. C'est le langage qui est premier, qui construit et modifie la réalité, le vivant étant réduit à l'état de machine communicante. C'est un monde sans sujet où les êtres sont devenus des émetteurs-récepteurs. L'autre catégorie, culture, civilisation, esprit, etc., ne semble pas exister en soi. Il ne semble pas y avoir de deuxième terme à leur équation. Bien qu'ils disent refuser l'essentialisation, les post-modernes n'ont fait que rétracter toute la réalité dans une unique catégorie, celle du corps, où ils ne voient qu'échange, communication, affect, lien, réseau, rhizome, etc. D'où leur obsession pour le corps, la sexualisation et la biologie. La théorie biopolitique a commis l'erreur de placer le corps au centre des questions politiques. Il serait la cible du pouvoir et va donc devenir le lieu de la révolte dans la tradition post-moderne, jusque chez les négristes et les ticuniens. Le développement parallèle du marché des données informatiques et du marché des organes montre aujourd'hui combien cette théorie est borgne. On découvrira avec intérêt l'admiration que portait Foucault aux biologistes tels que F. Jacob et J. Ruffier, ou encore le concept de corps sans organes chez Deleuze. C'est un cas exemplaire de renaturalisation. Ils ont renaturalisé la civilisation, l'ont essentialisé. Ils ont intégré le réseau, le marché, les machines, la technoscience au vivant, et ne font plus la distinction. Voilà pourquoi ils les défendent avec autant de ténacité. Mais ce qui n'a pas changé depuis le schéma moderne, c'est qu'ils ont toujours autant, sinon plus, besoin d'aliéner et d'exploiter le domaine de la vie sans médiation. Ils ont besoin de conquérir de nouveaux territoires, d'étendre leur empire. C'est ce que font les biotechnologies, voire la théorie du bout de viande. C'est pour cela qu'ils ne sont que des néo-modernes. Le troisième paradigme regroupe plusieurs filons de la recherche en philosophie des sciences, sociologie et anthropologie, portés en France par des évêques tels que Philippe d'Escola et Bruno Latour, et leur cortège de fidèles. Issus de la plus haute élite intellectuelle, leurs théories se diffusent jusque dans les milieux militants gauchistes et écologiques. Mais leur rapport à l'idée de nature révèle leur position politique. D'une manière générale, cette nouvelle école tente un dépassement du dualisme nature-culture en s'appuyant sur la notion d'hybride. Le structuraliste d'Escola en vient à mettre sur le même plan les non-humains, des aborigènes et ceux des occidentaux, et rejoint donc les néo-modernes dans leur naturalisation du cyborg. Latour propose carrément un gouvernement des choses, où les non-humains seront représentés par des experts scientifiques. Il porte une vision de la nature personnalisée et divinisée, Gaïa, et qui a toutes les caractéristiques de la cybernétique, fluide, autorégulé, interconnecté, cellulaire, malade du virus humain. L'astre Gaïa est une identification de la planète, une nature menaçante et extérieure comme chez les modernes, et qui fonctionne comme une machine communicante post-moderne. Bref, dans cette fusion des paradigmes précédents, le savant ordonne encore la réalité à notre place et tente d'élargir son pouvoir depuis les sciences naturelles vers les sciences du gouvernement. La dernière mode en philosophie politique, c'est que la combinaison des principes modernes et postmodernes, le récent manifeste XF de Cubonix en est un avatar. Car c'est bien la raison de sa tentative. S'il floute la frontière moderne, c'est pour étendre le pouvoir des scientifiques de la nature à la société. Les courants qui s'en inspirent, qui se donnent des noms d'expertise, anthropocène, collapsologie, ne font que reconduire et accroître encore la séparation moderne et néo-moderne. Ils mériteraient peut-être l'appellation d'hyper-moderne.
Renoncer à l'idée des natures ne revient pas nécessairement à se jeter dans les bras du post-modernisme. D'autres sentiers sont à explorer, qui aspire à combattre autant les paradigmes modernes que ses successeurs par l'expérience sans médiation. Mais alors, comment parler de ce que nous voulons défendre si nous renonçons à cette idée des natures définies par nos adversaires? Je crois que nous pouvons très bien nommer ce qui nous entoure selon des termes plus singuliers. Apprendre les noms et en donner à tout ce qui compose notre monde dans un rapport social d'interdépendance fondé sur des pratiques d'expérience directe, c'est déjà redonner à ces « choses » entre guillemets une qualité de quasi-sujet, les faire sortir de la décharge des objets naturels où les savants les avaient jetés. Qui sait par exemple reconnaître et avoir un usage des plantes de son quotidien? Tant que nous ne retombons pas dans un rapport d'exploitation des matières premières, qu'elles soient stock épuisable ou flux renouvelable, nous échappons à la pensée moderne. Et nous défendrons d'autant mieux une vallée ou une forêt si nous les faisons non pour ses qualités de nature, mais pour laisser à nos mondes la place d'exister et pour combattre l'extension du monde technocapitaliste. Le sabotage du dualisme nous conduit en pratique à bouleverser de nombreuses perspectives politiques. Il porte d'abord une critique radicale de l'écologie, qui, même si elle fait exister des multiples variantes de l'idée des natures, reste dans les mêmes paradigmes naturalistes, empêtrés dans ses racines cybernétiques, et ses perspectives de gestion de la nature ou d'identification à elle. Toute sanctification de la nature, du corps ou du territoire sont à mettre en crise. Mais il interroge aussi les manières de s'émanciper d'autres dualismes, comme celui des sexes. Plutôt que de nous limiter à nous identifier au rôle sexué ou à l'hybrider en surface, il pose la question. Qui les établit en tant que rapport social patriarcal? Est le marchand capitaliste pour les besoins de l'économie? Ou est plus profondément l'ordre que les prêtres avaient produit et que les savants perpétuent encore aujourd'hui? Même la distinction marxiste entre travail vivant et travail mort s'en trouve questionnée. On a vu parfois renaître à la ZAD la figure du bon paysan, travaillant hors du marché, mais acceptant de se plier aux normes de l'agriculture industrielle. Le travail vivant, si c'est encore situé à la tâche, même pour une autre divinité que l'argent, c'est encore de l'esclavage. Et il n'a rien à voir avec l'activité sans médiation, avec les choix éthiques des moyens, des outils, hors du paradigme du travail, hors de l'idée qu'il revient aux humains de transformer le monde. Toutes celles et ceux qui entrent en lutte pour défendre une forêt, le climat ou leur quartier, leur corps, leur santé ou leur travail, peu importe, vont peut-être expérimenter, s'ils se risquent assez loin dans les conflits, la vie sans médiation. C'est là que, dans l'offensive, ils pourront choisir. S'accrocher à leur idéologie écologiste, catastrophiste, scientiste, cybernétique ou productiviste et renforcer leur ennemi, ou les dissoudre pour défendre ce qui est né de leur action, des mondes politiques imprévisibles, ingouvernables. Signé P. Rigaud, juillet 2019. Il y a une petite note. Ce texte n'est qu'une halte dans le cheminement de la pensée. Il doit beaucoup à d'illustres penseurs et d'illustres inconnus et inconnus. Mais n'allez pas croire tout ce qui est écrit.
Final curtain, bye, my friend. I'll say it clear. I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it. Come on.